vous entendez son générique avec Émilie. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Annie.
Super, je suis très heureuse de t'entendre. Vous voyez, on est en pleine phase expérimentale.
Merci à la technique.
Oui, merci pour toutes les personnes qui ont travaillé tant d'années pour rendre ce moment possible. De quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier croque-philo confiné. Premier croque-philo confiné, mais continuité aujourd'hui de notre série consacrée à la philosophie et aux femmes. Nous le disons ici sur Radio J, lors du dernier croque-philo il y a 2 semaines, 4 femmes, en plus d'Anna Arendt, qui figurait déjà, sont entrées cette année dans le programme scolaire de philosophie de terminale. Et dans ce deuxième croque-philo de la série, on va porter une attention au parcours de l'une d'entre elles, sans doute pas la moins connue de nos auditeurs amis, mais néanmoins moins connue que Simone de Beauvoir. C'est à la pensée et aux écrits de Simone Veil, avec un W, que l'on va s'intéresser. Simone Veil, dont je vous propose aujourd'hui d'écouter le portrait. Simone Veil a vécu une courte vie de 1909 à 1943, mais une vie pleinement engagée. Elle est née en 1909 dans une famille juive. Elle est élevée dans l'agnosticisme. Agnosticisme est une doctrine qui reconnaît un absolu, mais qui ne suit pas de préceptes ou de solutions métaphysiques définitives. Selon les agnostiques, on ne peut pas connaître l'existence de Dieu, mais seulement croire à un absolu qui serait inaccessible à l'esprit humain. L'agnostique a le sentiment d'un absolu, mais s'interroge et émet des doutes sur l'existence de Dieu. Simone Veil, donc, fut élevée dans une famille agnostique, mais dira en 1940 que nous devons à la vérité religieuse bien autre chose que l'adhésion accordée à un beau poème. Notamment parce qu'à l'âge de 29 ans, en 1938, elle vit une expérience mystique, expérience qui lui révélera l'amour du Christ. Ses récitations, ses prières se feront chaque jour ensuite à partir de là avec une attention soutenue et absolue. Avant cela, adolescente, elle sera élève au prestigieux lycée Henri IV à Paris et à l'école normale supérieure, dont elle sortira agrégée de philosophie en 1931. Elle fut élève du philosophe Alain, hein, que nos auditeurs connaissent certainement, au moins de nous, bien que sa philosophie restera éloignée hein, de celle de son maître. Sensibilisée aux questions sociales et politiques, elle s'engage dans divers syndicats et revues d'obédience marxiste ou anarchiste et y publie entre autres, en 1934, une de ses œuvres majeures, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, où elle discute les thèses de Marx. Je vous propose d'écouter un extrait de ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, dans lequel elle aborde les thèmes de la liberté, de la technique et du travail. La société actuelle ne fournit pas d'autres moyens d'action que des machines à écraser l'humanité. Quelles que puissent être les intentions de ceux qui les prennent en main, ces machines écrasent et écraseront aussi longtemps qu'elles existeront. Avec les bagues industrielles que constituent les grandes usines, on ne peut fabriquer que des esclaves et non pas des travailleurs libres, encore moins des travailleurs qui constitueraient une classe dominante. Avec les masques à gaz, les abris, les alertes, on peut forger de misérables troupeaux d'êtres affolés, prêts à céder aux terreurs les plus insensées et à accueillir avec reconnaissance les plus humiliantes tyrannies. Mais non pas les citoyens. Avec la grande presse et la TSF, la radio de l'époque, on peut faire avaler par tout un peuple, en même temps que le petit déjeuner ou le repas du soir, des opinions toutes faites et par la même absurde, car même des vues raisonnables se déforment et deviennent fausses dans l'esprit qui les reçoit sans réflexion. Mais on ne peut, avec ces choses, susciter un éclair de pensée. Et sans usine, sans armes, sans grande presse, on ne peut rien contre ceux qui possèdent tout cela. Il en est ainsi pour tout. Les moyens puissants sont oppressifs, les moyens faibles sont inopérants. Toutes les fois que les opprimés ont voulu constituer des groupements capables d'exercer une influence réelle, ces groupements ont intégralement reproduit dans leur sein toutes les tares du régime qu'ils prétendaient réformer ou abattre, à savoir l'organisation bureaucratique, le renversement du rapport entre les moyens et les fins, le mépris de l'individu, l'utilisation de l'abêtissement et du mensonge comme moyen de propagande. Ali, une réaction au mot de Simone Veil que l'on vient d'entendre?
Je trouve ça très intéressant. Alors, je vais pas m'improviser experte.
On n'est pas là pour une analyse, hein, de
ouais.
Texte, effectivement.
Mais je trouve ça toujours en fait intéressant et toujours aussi actuel. Enfin, on peut toujours faire des liens avec avec ce qu'on vit ou ce qu'on observe, ou en tout cas lire ces mots et essayer d'en prendre quelque chose.
Il y a une frappante actualité effectivement dans ces propos, hein, tout autant sur le rôle et le pouvoir de la presse, mais aussi des moyens que sont les armes, les moyens techniques et la responsabilité politique, hein, que les gouvernements ont de faire des hommes des citoyens et non pas des esclaves, des hommes qui pensent finalement. Et donc, au-delà de cet extrait, on était en 1934 quand elle a écrit ce texte. Et en 1934 et 1935, elle décide de quitter son poste d'enseignante agrégée et de travailler en usine comme manœuvre sur machine à l'entreprise Alstom, puis chez Renault. Elle relatera cette expérience dans son journal, dont sera tiré l'ouvrage « La condition ouvrière ». Et de ses propres mots, elle ne se veut pas en vadrouille dans la classe ouvrière, mais entend bien être au contact direct avec la réalité. Elle inscrit ici en la vérité pas seulement dans l'ordre d'une pure pensée, mais dans l'expérience, dans l'épreuve de la solidarité avec les opprimés, à leur côté, parmi eux. Elle développera généralement dans son travail une philosophie du travail et de l'exploitation. Simone Veil s'est élevée contre le mensonge de la politique, notamment celle des dirigeants bolcheviques à l'époque, qui prétendaient créer une classe ouvrière libre, alors qu'aucun, selon les mots de Simone Veil, n'avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n'avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté des ouvriers. Ce qui toujours a fait horreur à Simone Veil dans la guerre, qu'elle soit mondiale ou guerre de classe, c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière. C'est ainsi qu'en 1936, elle a rejoint les républicains espagnols sans porter les armes, puis après, avec l'entrée des Allemands à Prague en 1938, elle en appelle à la lutte armée contre Hitler. Et c'est cette même année qu'elle découvre le Christ. Elle refuse de parler de conversion, mais elle affirme que toute la pensée du Christ est entrée en elle une fois pour toutes. Pendant l'occupation de Paris, elle gagnera Londres et demandera à rejoindre le combat de la résistance. Insatisfaite de son travail d'intellectuelle fonctionnaire, elle participe alors activement à la constitution de la France libre. Puis en 1943, malade, elle se laisse peu à peu mourir de faim à Ashford en Angleterre. Elle est alors âgée de 34 ans. On la vit en dénonçant l'exploitation ouvrière, le nazisme, le fascisme. Sa courte vie fut dévouée à toutes les causes nobles de son temps. Mais connaît-on la pensée qui a sous-tendu ses actions et jusqu'à quel point son expérience mystique a conduit sa pensée et sa vie? Quand on regarde sa vie, justement, on peut se demander d'où lui vient cette énergie, cette générosité, ce courage indomptable qui l'a fait défier la mort. Quelle a été sa force? Les témoignages que donne Simone Veil dans l'ensemble de son œuvre nous ouvrent sur une autre réalité, la réalité d'un engagement dans l'action de la pensée et du cœur. Une réalité à la fois rationnelle et spirituelle, ancrée dans le réel, en témoignant de l'affolement de la raison jusqu'au surnaturel. Et pour résumer son témoignage, son œuvre, écoutons ces quelques lignes à Nice, tu veux bien nous les lire,
ouais.
extraite de sa deuxième grande œuvre, L'Enracinement, qu'elle a écrit un an avant sa mort en 1943.
L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine, par sa participation réelle, active et naturelle, à l'existence d'une collectivité qui conserve vivante certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie.
Alors l'attente de la vérité à laquelle s'est consacrée Simone Veil est empreinte chez elle de quelque chose d'éminemment poétique. Et c'est sur un écrit poétique que j'aimerais terminer cette chronique. Il s'agit d'un texte extrait d'un ouvrage publié chez Gallimard en 1968 dans la collection Espoir, collection créée par Albert Camus. Cet ouvrage a été tiré à une cinquantaine d'exemplaires, préfacé par une lettre de Paul Valéry de 1937 qui est adressée à l'auteur elle-même qui lui avait envoyé ses poèmes. Vous retrouverez l'ouvrage intitulé Poèmes en version numérique sur Internet, l'ouvrage étant quasiment introuvable aujourd'hui en bouquinerie. Parmi ces poèmes, certains sont des œuvres de jeunesse écrites par Simone Veil lorsqu'elle était encore au lycée. Puis il y a celui-ci que je vais vous lire, intitulé « À une jeune fille riche », dans lequel elle s'adresse à la jeune fille qu'elle aurait pu être ou qu'elle a été, qu'elle invite à regarder la réalité du privilège de sa condition et la fragile et implacable réalité de la vie. Glimmer. Avec le temps, je veux voir dans tes charmes, sourdre de jour en jour, poindre le don des larmes. Ta beauté n'est encore qu'une armure d'orgueil. Les jours après les jours en feront de la cendre. On ne te verra pas éclatante descendre, fière et masque baissé dans la nuit de ton cercueil. À quel destin promise en ta fleur passagère? Glisses-tu? Quel destin? Quel froid de misère viendra serrer ton cœur à le faire crier? Rien ne se lèvera pour sauver tant de grâce. Les cieux restent muets pendant qu'un jour efface des traits purs, un teint doux qu'un jour a vu briller. Un jour peut te blêmir la face, un jour peut tordre tes flancs sous une fin poignante, un frisson mordre ta chair frêle, naguère au creux de la tiédeur, un jour et tu serais un spectre dans la ronde. L'as qui sans arrêt par la prison du monde court, court, avec la faim au ventre pour moteur. Comme un bétail la nuit par les bancs pourchassés, où trouver désormais ta main fine et racée, ton port, ton front, ta bouche avec un pliotin, l'eau brille. Trembles-tu? Pourquoi ce regard vide? Trop morte pour mourir. Reste donc, chère livide, tas de loques prostrées dans le gris du matin. L'usine ouvre. Iras-tu peiner devant la chaîne? Renonce au geste lent de ta grâce de reine. Vite, plus vite, allons, vite, plus vite. Au soir, va-t'en, regard éteint, genoux brisés, soumise, sans un mot, sur ta lèvre humble et pâle qu'on lise, l'ordre dur obéit dans l'effort sans espoir. T'en iras-tu les soirs aux rumeurs de la ville, pour quelques sous laisser souiller ta chair servile, ta chair morte, changée en pierre par la faim? Elle ne frémit pas lorsqu'une main la frôle. Les reculs, les sursauts sont rayés de ton rôle. Les larmes sont un luxe où l'on aspire en vain. Mais tu souris. Pour toi, les malheurs sont des fables. Tranquille, et loin du sort de tes sœurs misérables, tu ne leur fis jamais la faveur d'un regard. Tu peux, les yeux fermés, prodiguer les aumônes. Ton sommeil même est pur de ces mornes fantômes. Et tes jours coulent clairs sous l'abri d'un rempart. Des morceaux de papier plus durs que les murailles te gardent. Qu'on les brûle, et ton cœur, tes entrailles, seront frappés de coups dont tout l'être est brisé. Mais ce papier t'étouffe, il cache ciel et terre, il cache les mortels et Dieu. sors de ta sphère, nue et tremblante au vent d'un univers glacé. » C'était à une jeune fille riche, poème de la philosophe Simone Veil. Et à l'heure d'automne, quand la nuit, comme aujourd'hui, tombe toujours un peu trop tôt, nous nous retrouverons dans 2 semaines et dans ce prochain croque-philo de la série, nous poursuivrons le déconfinement de la pensée des femmes philosophes.
Merci beaucoup, Émilie. Merci pour ce croque-philo.